se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive vos champs participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Carrefour.
Quand vous me dites
« Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip large Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
RMC. Jusqu'à 8h.
Architecte numéro 8.
Non, c'est pas c'est... Enfin, ça dépend, c'est pourquoi.
Votre maison.
Tous mes architectes sont occupés. Et c'est toi, numéro 8, qui en sera l'architecte.
C'est moi qui en serai l'architecte, c'est-à-dire c'est moi qui vais architecter tout le...
Tu es le seul disponible.
Ah non, je suis pas occupé.
Il n'est pas occupé, lui.
Ils sont fous, ces architectes.
Allons voir ce qui se passe.
François Sorel.
Christian Pessé.
Ah oui, c'est vrai qu'en plus, à l'époque, les architectes étaient quand même, avaient un peu la pression.
Voilà, surtout, c'est ça. Mais on va tout de suite distinguer la profession d'architecte.
Bien sûr.
Donc, qui est là pour concevoir
faire le plan d'une maison,
faire le plan, faire la réalisation de la maison. Et puis, le rôle de l'architecte d'intérieur, qui est une profession distincte, même s'il y a le mot d'architecte dans les deux. Alors, nous avons avec nous Sylvie Modigliani, bonjour.
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 Vous êtes architecte d'intérieur, ancienne présidente de l'UNED de Paris ou de la région parisienne. C'est la structure syndicale professionnelle qui est affiliée à la FFB, hein, Fédération Française du Bâtiment. Et puis nous aurons également au téléphone Géraldine Ball, qui est cofondatrice de la plateforme UpFab, qui est une plateforme de mise en relation des architectes d'intérieur et des artisans, français. Bien de chez nous, mais vous me direz, c'est pas une profession très délocalisable malgré tout, et qui donc nous répondra sur, la coordination aussi des travaux. Sylvie Modigliani, donc vous êtes architecte d'intérieur. J'ai pris cette précaution de bien distinguer avec les architectes qu'on appelait DPLG, diplômés par le gouvernement.
Tout à fait, diplômés par le gouvernement, voilà. Ça a changé de nom.
Maintenant, mais c'est plus ça. Est-ce qu'on peut me définir donc justement le métier d'architecte d'intérieur?
Alors, le métier d'architecte d'intérieur, en fait, l'architecte d'intérieur, si on veut aller vite, il intervient après l'architecte, c'est-à-dire qu'il intervient à l'intérieur d'un bâtiment. Il peut intervenir soit pour des particuliers, donc pour une maison ou pour un appartement, soit pour des boutiques, soit pour des hôtels, des restaurants, des bureaux.
C'est un aménageur, finalement, on peut dire ?
On peut dire ça, c'est un aménageur, et il intervient avant le décorateur,
d'accord,
par exemple.
Oui.
Il peut intervenir pour des musées, pour de la scénographie, voilà, c'est assez large finalement.
Alors, ça n'est pas une profession réglementée comme les celles de l'architecte ?
Non.
Et alors, ça veut dire quoi ? Quelle formation ? Parce que si demain, je m'intitule architecte d'intérieur, je peux le faire ?
Vous pouvez, tout d'accord. À fait. Vous pouvez demain mettre votre plaque et décider que vous êtes architecte d'intérieur,
d'accord.
Malheureusement.
Alors, malheureusement, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme formation ? Parce que qu'est-ce qu'on peut demander ? Je vais avoir justement la plaque, je sonne, je dis « Bonjour monsieur, bonjour madame, architecte d'intérieur. » Vous pouvez me dire la formation que vous avez eue ?
Alors, il y a plusieurs types de formations, de plusieurs niveaux. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site donc de l'UNED, l'Union Nationale des Architectes d'Intérieur, il y a une page où vous trouvez expliquer les différents types de formations. Il y a différents niveaux. Il y a un BTS, je crois qu'il s'appelle Design d'Espace maintenant, qui est dispensé par différents types d'organismes. Et puis, il y a des formations Bac plus 4 qui vont jusqu'à Bac plus 5 qui forment donc des architectes d'intérieur. C'est majoritairement des formations en art appliqué.
D'accord, et qui sont donc diplômés, qui peuvent démontrer leur qualification.
Tout à fait, tout à fait. Alors après, effectivement, les formations universitaires ou enfin, ce sont des formations théoriques qu'il faut évidemment compléter par une formation pratique et par de l'expérience, bien sûr.
Alors les garanties de compétences, c'est quoi? Parce que encore une fois, là, il y a l'aspect diplômant, et puis il y a le, c'est quoi après? C'est du bouche à oreille. C'est
Alors ça peut être de plusieurs ordres. Il existe aujourd'hui, donc comme vous le disiez, c'est pas une profession marketée. Enfin, en tout cas, protégé. En revanche, il existe des organismes comme l'UNED qui, ou comme le CFAI, le Conseil français des architectes d'intérieur, qui labellise ou qui qualifie les architectes d'intérieur, c'est-à-dire qui donne une qualification à l'aide d'une commission qui vérifie un dossier et qui vérifie les compétences d'un architecte d'intérieur.
D'accord. Alors, vous avez évoqué rapidement le sujet il y a un instant, mais nous avons Lionel qui nous demande quelle est la différence entre un architecte d'intérieur et un décorateur d'intérieur.
Alors, ce qu'on peut dire rapidement, c'est que l'architecte d'intérieur va travailler plus sur les volumes et sur les espaces. C'est-à-dire que si on veut être vraiment très très schématique, l'architecte d'intérieur, il peut casser des murs, si on veut le faire très très vite, avec l'aide le plus souvent d'un bureau d'études qui va lui assurer que le mur qui casse, comment le renforcer, s'il y a besoin de le renforcer, etc. Le décorateur, souvent, il intervient dans un espace qui existe et il va l'habiller, etc. Mmh. Souvent, l'architecte d'intérieur, il est également décorateur. Ou alors, il travaille avec un décorateur.
D'accord. Vous avez parlé de casser des murs, donc ça veut dire qu'il faut quand même une certaine compétence et également ce qui va avec l'assurance décennale. Donc,
être assuré. Parce qu'il y a certains murs qu'on ne peut pas casser.
Non.
Il y a certains murs qu'on ne peut pas casser ou alors qu'on casse en s'assurant en décennale, bien sûr, mais surtout en s'assurant qu'on peut le faire ou qu'on renforce le mur de façon correcte pour pouvoir l'ouvrir.
On ne peut pas dire qu'il y a des murs qu'on ne peut pas casser. Pratiquement, on peut casser tous les murs, mais à condition de faire des reprises de charge, à condition d'avoir les compétences techniques et qui, là, sont peut-être plus du ressort de l'architecte, non ?
Tout à fait, ou d'un bureau d'études techniques.
D'accord. D'accord, donc là, vous faites appel à un vrai architecte.
Oui, tout à fait.
Ou à un bureau d'études
techniques.
D'accord. Alors, comment vous élaborez un projet ? C'est-à-dire, je vous fais venir chez moi. Moi, à Paris, je suis dans un immeuble haussmannien, des volumes assez importants, des murs, justement, de refend, des cloisons ou autres. Comment vous faites ? Quelle est votre méthode ?
Alors, d'abord, je vous écoute.
Oui.
ce qui est quand même important. Ensuite, je prends connaissance des lieux, justement. J'écoute le lieu, c'est-à-dire je vois justement comment il est fait, quelles sont ses contraintes. Et puis ensuite, je fais un peu la synthèse de tout ça. Et à partir de ça, j'imagine, en fonction de ce que vous m'avez demandé, comment est-ce que je peux répondre à votre cahier des charges.
Et alors, quel projet vous allez me faire ? Concrètement, ça va ressembler à quoi ?
Concrètement, ça ressemble d'abord à des plans, ensuite à des vues en 3D. Ensuite à des planches d'ambiance avec des images en fait, concrètement, des planches de couleurs, de matériaux, et puis en fait on va avancer en affinant au fur et à mesure. C'est un peu un jeu de ping-pong. Vous allez me dire ça me plaît, ça me plaît pas, vous avez compris ou au contraire vous avez pas compris, et puis on va avancer comme ça au fur et à mesure.
Tiens, on parlait de mur porteur il y a un instant. Didier nous demande comment, Christian, reconnaît-on un mur porteur ?
Alors, c'est très difficile. Il y a de l'évidence. C'est-à-dire, un mur qui fait 30 cm d'épaisseur, il est forcément porteur. On peut pas imaginer qu'on ait fait un mur de 30 cm pour simplement séparer une pièce. Alors, après, il y a toute la difficulté de compréhension globale du bâtiment. Si on est, par exemple, dans un très vieux bâtiment, des cloisons qui peuvent apparaître n'étant pas porteuses peuvent l'être par répartition des charges. Parce que la simple définition, c'est quoi ? Une cloison non porteuse, c'est qu'elle est mince, c'est qu'elle est dans un matériau plus ou moins fragile, et que quand on fait toc-toc, ça résonne immédiatement, et c'est notamment
taco,
de l'autre côté.
Un peu comme du placo.
D'accord. Mais donc, la structure elle-même, eh bien, il faut toujours, de toute manière, prendre conseil d'un professionnel. Évidemment, si vous avez, vous parliez de plaques de plâtre, si vous avez une séparation plaque de plâtre, elle ne va pas être porteuse.
Oui, juste, je voudrais rajouter quelque chose. Dans un immeuble, par exemple, une structure, une cloison mince, en fonction de ce qui a été ouvert, par exemple, dans les appartements au-dessus de chez vous, peut devenir semi-porteuse.
Donc
attention, faites attention à ça. Éventuellement, consultez l'architecte de l'immeuble qui va connaître les appartements au-dessus, ce qui a été fait au-dessus et en dessous de chez vous, parce qu'une cloison qui en apparence fait 7 ou 8 cm d'épaisseur peut être devenue porteuse.
Attention, dans vraiment l'ancien, c'est-à-dire lorsque vous avez une vieille ferme, là, vous dites, il y a plein de cloisonnements, vous dites, allez, je vais faire un grand espace, je balance tout, et là, il y a des risques parce que il y a une répartition des charges qui peut se faire sur des cloisons qui, individuellement, ne sont pas portées.
Parce que c'est ça la tendance aussi, non?
Bien sûr.
C'est le fait d'avoir des pièces de plus en plus grandes, des pièces à vivre de plus en plus grandes, ne plus séparer la cuisine du salon, enfin, voilà, c'est des tendances, ça, quand même.
Alors, une fois qu'on en est là, je dirais, on va passer aussi aux entreprises. On va poser. On a Géraldine Ball qui nous attend. Bonjour Géraldine, vous êtes cofondatrice de la plateforme HopFab, H-O-P-F-A-B. Et vous nous adressez pas directement aux particuliers, mais vous êtes une interface entre les architectes d'intérieur, comme Sylvie Modigliani, et les entreprises. C'est cela?
Oui, bonjour Christian. Bonjour. Effectivement, HopFab, c'est vraiment un service qui va faciliter l'accès et la collaboration entre des artisans français sélectionnés et des architectes d'intérieur. Donc pour permettre la réalisation de projets d'agencement sur mesure.
Comment vous sélectionnez vos entreprises?
Alors, nous, on a un processus de sélection qui se fait, en deux étapes. Il y a un processus amont, où on va vraiment aller regarder le profil de l'entreprise, donc vérifier la santé financière de l'entreprise, vérifier ses références projets, contrôler ses assurances. Vous en avez parlé tout à l'heure, c'est quelque chose de très important.
Essentiel.
Et puis, exactement. Et puis, développer vraiment une base de connaissances sur chaque entreprise, chaque artisan, être capable de savoir ce qu'il peut faire, l'outillage dont il dispose, etc. Donc, il y a vraiment cette...
Oui. Est-ce que vous jouez aussi le rôle d'interface? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes maître d'œuvre ou pas du tout? Ou est-ce que c'est l'architecte d'intérieur qui l'est?
C'est l'architecte d'intérieur qui reste maître d'œuvre. Nous, ce que l'on fait, c'est vraiment comprendre le besoin et les attentes au niveau du projet, donc avoir cette étape de qualification. Ensuite, présélectionner les entreprises qui vont être capables de répondre à ce cahier des charges. Je prends quelques exemples. La disponibilité de l'atelier par rapport au délai de livraison, son positionnement prix par rapport au budget du client, etc. Et ensuite, présenter des ateliers avec... pour permettre à l'architecte de poursuivre ensuite son projet.
Est-ce que, étant particulier, je peux demander à l'architecte d'intérieur de passer par vos services, par exemple?
Bien sûr. Vous pouvez demander à un architecte d'intérieur de passer par nos services. Ça permet d'accéder à cette communauté d'artisans français sélectionnés et d'avoir des garanties supplémentaires.
D'accord. Donc, vous êtes quoi? Vous êtes un intermédiaire ou vous êtes un conseiller?
On est un facilitateur, on va dire.
Un facilitateur. D'accord. Merci Géraldine, restez en ligne, on aura peut-être besoin encore de vos lumières, si j'ose dire. Sylvie, comment ça se passe? Il y a un contrat derrière, justement. Est-ce que vous jouez le rôle d'organisateur des travaux, ce qu'on appelle un maître d'œuvre? Comment ça fonctionne? Et puis, quelque part aussi, combien ça coûte? Parce que ça n'est certainement pas gratuit, vos services.
Effectivement. Alors nous, notre rôle, c'est de, on fait en général un appel d'offres entre plusieurs artisans, et puis on conseille le client une fois qu'on a reçu l'ensemble des devis. On examine les devis, on fait l'analyse du rendu des devis. En général, on a rencontré les entreprises, donc on est capable d'évaluer le professionnalisme des entreprises qui ont répondu. On conseille le client sur l'entreprise à retenir.
D'accord.
L'entreprise ou les entreprises. C'est le client qui contracte, c'est-à-dire que nous, on lui propose, on le conseille, on lui prépare les contrats. Mais c'est lui qui signe avec l'entreprise.
Donc vous n'avez pas vraiment de responsabilité en cas de malfaçon?
On a une responsabilité dans la mesure où on conseille le client. Mais si, c'est le client qui, au final, a le choix.
D'accord.
Donc, après, c'est l'entreprise qui prend... Enfin, c'est le client qui contracte directement. Donc nous, on n'a pas de responsabilité. On a la responsabilité dans la mesure où nous, on suit le chantier et on s'assure que l'entreprise travaille dans les règles de l'art. Et on suit le chantier, effectivement, et on aide le client à vérifier que ce qui a été demandé est fait dans les temps, dans le prix, et dans les règles de l'art.
Et alors, ça coûte combien? Quel est le mode de rémunération? Le contrat en amont?
Alors, nous, on a un contrat avec le client directement aussi. Et en fait, il y a différents types de rémunération. Soit c'est du forfait.
Oui.
Donc à négocier en direct entre le client et l'architecte d'intérieur. Soit c'est une partie de forfait sur la partie conception, la partie qu'on évoquait tout à l'heure, et une partie de pourcentage du montant des travaux pour la partie suivi de chantier. Soit c'est complètement en pourcentage du montant des travaux. Hors-taxe sur hors-taxe.
Et vous n'êtes pas rémunéré aussi par les entreprises en retour?
Déontologiquement, non.
Oui, parce que c'est toujours non. L'inquiétude qu'on peut avoir lorsqu'on a un pourcentage sur les travaux. On se dit, bah oui, l'architecte ou l'architecte d'intérieur va pousser à la dépense pour avoir un peu plus de retour de rémunération.
Non, le déontologiquement, non. Ça s'est fait.
Oui.
Ça s'est fait.
Oui.
Le souci, c'est d'être pieds et poings liés avec une entreprise. Enfin, nous, on est vraiment entre les deux et on est au service du client.
Est-ce que le fait d'une structure qu'une structure comme la vôtre soit affiliée à la Fédération française du bâtiment, ça constitue aussi une certaine garantie?
L'UNED, vous voulez dire l'Union nationale des architectes d'intérieur?
Parce que vous êtes à l'UNED, elle-même à la FFB.
Ah bah bien sûr, parce qu'on a on a une aide méthodologique. En permanence, on est formé en permanence. On a un service juridique qui nous assiste en cas de soucis auxquels on peut faire appel. On a accès à des assurances. On est soutenu en permanence.
D'accord. Si on veut avoir des détails et votre relation, j'ai mis vos adresses mail sur notre page Facebook. Donc c'est facile. Vous y allez pour rentrer en contact avec vous. Merci Sylvie Modigliani. Et puis merci également à Géraldine Ball.
Allez, on revient. Merci beaucoup. On revient dans un instant. On part sur autre chose avec Anna qui sera avec nous au 32-16. Elle va nous parler de la rénovation de ses fenêtres en bois pour un entrepreneur. Visiblement, l'entrepreneur a fait des bêtises, Christian.
Bah, on va voir.
On va rentrer dans le détail. Et puis, on retrouvera aussi votre coup de gueule de ce samedi matin. Je vous rappelle que, bien sûr, à tout moment, vous pouvez joindre Christian, 32-16. L'appli RMC Direct Studio avec votre numéro de téléphone. On revient dans une minute.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.